C'est Gilbert Bribois sur RMC. Attention, RMC a une nouvelle appli. Vous pouvez la télécharger dès maintenant. Il y a tous les shows, il y a toutes les infos, il y a tous les podcasts, dont celui de l'After, évidemment.
Vous écoutez
RMC. RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas la danse classique, quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Thomas Desson.
Avec François Malardeau, avec Jonathan Macardy. Et il l'a dit, Thierry Loret, bah, le foot, il y a quelques coups. Ils ont fait un coup ce soir au Maccabi Haïfa, parce que défait 2 buts à 1, c'est l'information de la soirée. On va retrouver les 8 et 15 août prochains, au troisième tour préliminaire de cette Coupe de l'UEFA, le Racing Club de Strasbourg. On le rappelle, messieurs, dans la douleur ce soir.
Oui, mais l'important, c'était de se qualifier. Donc,
non, l'important, c'est les 3 points, c'était à 21h. Hein. On repasse pas sur les évaluations.
On sait où on en est, là, chez nos amis slovaques qui reçoivent... Nos amis bulgares
2-0 alors qu'ils avaient été battus par les Bulgares 2-0. Donc on se dirige vers une prolongation. Jimmy Brown d'ailleurs, il ne me parle plus dans les ordres parce qu'il est focalisé sur ce match entre Slovaques et Bulgares. Ce serait l'info de la soirée. Le match retour aura lieu le 15 août prochain. Avant, on l'a dit, un barrage aller et retour. La saison de Ligue 1 aura déjà débuté depuis fort longtemps. Le tenant du titre avec 6 victoires de suite au Trophée des Champions, c'est Paris. L'an dernier, ils se sont imposés 4-0 contre l'AS Monaco. Et pourtant, est-ce que le PSG pourrait revivre ça, bis repetita?
Kimpembe contre son corps, le centre de Traoré qui fait la différence sur Bernat, parce que Bernat a trop anticipé.
Allez, Jeannot, on va peut-être avoir une deuxième période un peu plus intéressante.
Tir au but parisien. On rappelle que si Nkunku ne la met pas, c'est Rennes qui gagne la Coupe de France. La frappe d'Nkunku au-dessus.
Et Rennes
gagne la
Coupe de France. Et Rennes. 71, 1971, la dernière finale gagnée.
La coupe à la maison.
Quelle horreur cette chanson.
Il a dit ça, le remix. On a eu le remix déjà de FIFA du monde de foot.
Cette chanson, c'est un scandale pour la musique. Ça, tu vois, j'étais heureux qu'on gagne la Coupe du Monde, mais de devoir se farcir ces horaires.
Moi, je croyais qu'on écoutait Jeanne Masse quand on était supporter du Stade Rennais en rouge et noir, mais là.
C'est le mélomane qui parle. Là.
On a eu plein de belles choses. On a eu le retour de Jean-Michel Larquet aussi.
Je sais pas, mais pas cette bouillie. Et François, tu vas pas me dire que t'aimes ce genre de truc.
Moi, j'aime pas.
Est-ce que vous avez aimé le scénario?
Les goûts, chacun.
Non, il y a des choses qui sont ni objectives ni subjectives. Il y a des choses, on dit c'est bien, et d'autres, c'est pas bien, c'est tout.
Est-ce que vous avez aimé le scénario de ce match? Attendez.
C'est nul aussi, mais bon. Moi, ça, c'est mon adolescence. Ça, c'est Stade du Ré, on avait jamais.
Tu chantes bien. J'écoute des trucs, je pense que c'est plus ce que vos parents écoutaient, mais.
Ah, encore plus vieux!
Moi, je pense, ouais.
On en a quelques-unes à vous offrir en fin d'émission tout à l'heure, notamment du Jean-Pierre Madère, j'en dis pas plus.
Mais quand même.
Un des buts d'anthologie, de ses seuls buts d'anthologie, Dani Alves, Neymar qui régale, 2-0, la fleur au fusil, puis la Bérésina derrière. Le rouge, justement, c'était celui de Kylian Mbappé. Ça fait que 95 jours, mais est-ce que c'est resté quand même en travers de la gorge des Parisiens?
Oui, évidemment. S'ils doivent aller chercher, tu dis que c'est 6 successifs hein, de trophées, s'ils doivent aller chercher une motivation supplémentaire pour aller récupérer le 7e, elle est dans la défaite en finale de la Coupe de France.
Non, mais
si tu l'utilises pas comme levier, alors il faut pas que penser à prenez votre revanche, mais ça fait partie quand même des petites choses à actionner quand t'es coach.
Mais bien
même pas, t'as peut-être même pas besoin de l'actionner finalement. Mais les joueurs tout seuls ils vont l'avoir en tête.
De toute manière, ce match-là, écoute, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein, mais je le vois très déséquilibré. Je vois Paris gagnant à 99% de chance parce que Paris, voilà, en match de préparation, c'était relativement
le Paris
pas
contre
mal.
L'Inter,
Après, non, mais là où je te dis 99% de chance, c'est parce que Rennes est fortement amputé. Rennes a perdu des joueurs. Rennes a des joueurs qui sont pas là parce qu'ils ont participé à la
CAN. Des deux côtés, la préparation est inquiétante, Jonathan.
Je t'arrive, regarde. À Rennes, t'as Ben Sebaini, Ismaël Assar, Amari Traoré et Mbaye Niang qui étaient à la CAN. Donc tu les auras pas demain. T'as des joueurs qui sont partis. Benjamin André, qui était la pierre tournante du milieu de terrain, qui n'ont pas encore été remplacés. Julien Stéphan l'a dit. Là, il arrive en Chine, il est à poil, il attend une fin de mercato qui va être très agitée.
Ben Arfa leur a dit ciao.
Ouais, bon, du 27 avril dernier, il y aura que 4 titulaires potentiels des 11 derniers.
C'est pour ça que le Stade Rennais, pour l'instant, est trop en retard dans le point de vue de son effectif, avec les joueurs qui sont pas, voilà, qui viennent juste de reprendre l'entraînement, pour se dire que il y a peut-être danger pour le Paris Saint-Germain.
Rennes, on va en parler évidemment plus amplement dans un instant. Écoutez tout de même l'entraîneur de Rennes à propos de ce match qui aura lieu demain à Shenzhen. Parce que quand je leur ai dit demain, en fait c'est pas vraiment ça, c'est dans 36 heures, coup d'envoi à 13h30, nous on a le retour de coach Courbis dès 13h avec Benoît Boutron, on aura Loïc Tanzi qui sera au commentaire de ce match avec Antoine Arlot, donc très beau dispositif. On va en parler dans un instant effectivement de cette préparation aussi tronquée à Rennes, oui. Mais voilà, il y a le retour des joueurs de la CAN,
de la Copa América.
De la Copa América, d'ailleurs, il y a eu beaucoup.
Le retour de Choupo-Moting, je suis sûr qu'il soit absent ou présent, ça va pas faire une immense différence.
Entre Marquinhos, Thiago Silva, et justement, on en parle juste après ce sonore de Julien Stéphan, le premier entraînement de Neymar après 16 jours. Stéphan, tout d'abord.
Oui, c'est un match particulier puisqu'il vient finalement récompenser notre magnifique performance en Coupe de France la saison dernière. C'est un match qu'on aborde dans des conditions différentes puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui ne seront pas là et qui étaient là lors de la finale il y a 3 mois. On a aujourd'hui un effectif qui est beaucoup renouvelé, qui est aussi incomplet notamment à cause de la CAN et puis d'un recrutement qui va s'accélérer mais des joueurs qui ne sont pas encore arrivés. On le prend comme un match de préparation supplémentaire, certes avec un trophée à aller chercher. C'est surtout dans l'optique de continuer à travailler pour nous et de progresser avec nos forces du moment.
Planquez-vous les mecs, j'ai cru que c'était la musique de Sergio Leone derrière, il y avait le bon, la brute et le truand. Une petite musique d'ambiance chinoise. Ouais. Réponse un peu langue de voix, réponse un peu lambda, Julien Stéphan.
Ouais, non mais j'ai écouté ce qu'il disait en conférence de presse. Il est lucide sur la situation. Là pour l'instant, il y a un groupe qui est très très amputé. Leur préparation elle est inquiétante mais parce qu'ils sont beaucoup d'absents, leur mercato n'a pas vraiment encore commencé. Donc là, il y a de quoi être un petit peu inquiet pour le Stade Rennais sur ce match-là. Je te parle pas sur la saison parce que le mercato, on fait confiance à Olivier Létang qui a montré la saison dernière qu'il était capable de faire un très bel effectif. Mais là, même si le Paris Saint-Germain est fortement amputé lui aussi, je pense qu'il y a pas match. Tu regardes la composition d'équipe probable du PSG demain et la composition d'équipe probable du Stade Rennais demain, ça a rien à voir avec ce qu'on a vu en finale de Coupe de la Ligue.
Match particulier, match singulier. Arthur qui est avec nous. Est-ce que t'es de cet avis? Comment tu vois ce Rennes PSG?
Supporter de qui, Arthur? Salut.
Bonsoir Lafleur, bonsoir Thomas, bonsoir François, bonsoir Jonathan.
Salut Arthur.
Salut Arthur. Alors, t'es pour
alors
qui toi?
Moi, je suis... Allô.
Ouais.
Supporter du PSG, Arthur.
Supporter du PSG, voilà.
Okay. Oui, supporter du PSG, oui.
Alors, dis-nous.
Alors moi, je suis pas tout à fait serein pour ce match, peut-être sur l'aspect psychologique, notamment sur ce qu'on a vu ces derniers mois au PSG. Alors la préparation, il y a beaucoup de positifs à retenir, mais moi j'ai quand même des interrogations sur la défense.
Comme nous tous.
Sur la défense, notamment Thiago Silva et Marquinhos qui viennent seulement de revenir. Kerrer, Diallo sur les matchs de préparation, c'était
moyen.
C'était assez friable. C'est normal pour Diallo qui vient d'arriver, hein, c'est tout à fait normal, il faudra du temps. Kerrer, il sait que
le binôme, le tandem Diallo Kerrer a eu du mal à fonctionner ensemble contre l'Inter, Arthur.
Oui, beaucoup de mal, ouais. Je comprends. Après, ça s'explique pour les deux. Ça s'explique pour Diallo par son arrivée, qui doit s'adapter avec Kerrer qui a quand même, qui cherche quand même à se faire pardonner.
Kerrer, c'est pas un cadeau.
Exactement. En plus, Diallo, c'est un jeune, et pour bien commencer, il faut qu'il soit entouré, il faut que tu lui mettes quelqu'un d'expérience avec lui pour faire la paire en charnière, que ce soit Marquinhos ou Thiago Silva, mais pas Kerrer.
Pas Kerrer, il a même eu l'occasion de jouer un peu avec Kurzawa, qui avait été descendu en défense centrale, mais là, c'était complet, c'était catastrophique.
C'était une catastrophe. Kurzawa a été catastrophique sur la préparation.
Il est buté avec Thilo Kerrer, Thomas Tuchel.
Oui. Ah oui. Ah, mais complètement. Complètement. Je l'ai trouvé même tellement buté, que j'en suis arrivé à être presque suspicieux puisqu'ils ont le même agent.
Il y a pas que
je
ça.
Parle de suspicion, hein. Je n'ai pas de.
Mais averti pour moi, souvent, pour moi, souvent
entre,
fautif.
Entre Meunier, Alves et Kerrer, Kerrer il était troisième. Mais les yeux fermés. Et il y avait duel entre Meunier et Alves.
Le problème,
Kerrer, on l'a vu, il attaque, ouais, enfin, c'est pas non, ce qu'il demande, mais il défend pas.
Il est mauvais. Le problème de Tourelle avec Thilo Kehrer, c'est simplement que Thilo Kehrer a été l'objet d'une lutte de pouvoir intense entre Tourelle et Antero Henrique. Finalement, Tourelle a obtenu gain de cause sur le dossier Thilo Kehrer, qui, le PSG, je rappelle, a payé 42 millions, 41 ou 42 millions? Plus de 40 millions d'euros, en tout
38,
cas.
38 millions.
Avec les bonus, ça faisait combien? Bon, une très grosse somme. Et au final, tu vois, je pense qu'il a voulu s'entêter pour montrer à Henrique que, voilà, bah, c'était son joueur et que, vu dans la position inconfortable dans laquelle il était l'année dernière, il était obligé.
De ses latéraux, c'est quand même le plus polyvalent.
Mais il est nul.
Le plus à même de glisser en
comme
défense
dirait,
centrale.
Il n'est pas latéral de base, il est défenseur central de base.
Il a été bon à aucun poste. C'est bien beau d'être polyvalent, mais il y a aucun poste où il a donné satisfaction.
Oui, je trouve qu'il n'a pas sa place.
Ouais, mais alors là, on revient quelques années en arrière. C'est comme Draxler qui était un milieu offensif et qu'on fait jouer plus bas à Paris, alors qu'au départ, à Schalke 04, il n'est pas à son poste aussi.
C'est pas pareil.
C'est pas le même repère. Après, à Draxler, tu ne demandes pas de gratter les ballons comme à Marco Verratti. Mais Kehrer, je vois toujours la même chose. Sans compter les fautes.
Je vous demander à tous les deux. À 21, 22 ans, là, on parle de 23, 24 ans. Est-ce qu'on a, quand on a changé de club au bout d'un an, deux ans, on peut encore dire, il joue pas à son poste. Il faut aussi être dans le dépassement de fonction et dans l'adaptation.
Il y a deux choses. Je me rappelle, désolé pour la comparaison qui risque d'être un petit peu champêtre, mais Roland, par exemple, quand il lance Mapouyanga Mbiwa, qui finalement au bout d'un moment est devenu bon, il le fait jouer au poste de latéral. C'était intrinsèquement pas son poste. Hein. On sait que Mapou c'est un joueur qui est pas non plus hyper rapide, qui est une vraie armoire. Et il le fait débuter sur le côté avec Montpellier pour qu'il apprenne des repères défensifs. Il y avait une vraie idée derrière ce positionnement. Et au final, il le remet dans l'axe. Et dans l'axe, même si maintenant il est en pleine perdition, ça a été pendant deux ans un des très bons défenseurs centrales de Ligue 1. Moi, ce que je veux dire par rapport, par rapport à Thilo Kehrer, c'est que Thilo Kehrer, le problème, c'est que t'as l'impression qu'en jouant à droite, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine.
Latéral
droit. Il n'a pas la qualité technique, il n'a pas de qualité de centre, il ne sait pas s'aligner, il ne sait pas se placer dans les phases de transition, il est perdu, il est à gauche quand il devrait être à droite et il est à droite quand il devrait être à gauche. Et le problème de tout ça, c'est qu'il n'a pas montré de signe de progrès depuis le début de la saison. Qu'à la rigueur, c'est un petit peu difficile quand Tourelle le balance sur ce poste-là. Pourquoi pas? Mais on n'a pas senti qu'il progressait, et pire encore, on a senti qu'il régressait au fur et à mesure où la confiance partait.
C'est ça qui est très dur avec lui.
Bon, juste Kimpembe, sans aller jusqu'à Mapouyanga Mbiwa, Kimpembe au début,
quand il est arrivé de jouer latéral, moi j'ai trouvé Kehrer, bon, on va pas faire une demi-heure sur lui, même si l'émission est longue, mais moi j'ai toujours trouvé Kehrer entre moyen et médiocre. Et plus le niveau des matchs augmentait, plus il était médiocre, et pour le dire de manière plus brève que toi, je l'ai trouvé surtout défensivement comme un joueur presque qui n'avait pas de repères, alors que sa formation, c'est une formation de joueur défensif.
Eh bien, bonne nouvelle. Donc, au Xiangxiang Sports Center de Shenzhen, les informations de Loïc Tanzi qui sont arrivées en fin d'après-midi. Neymar, retour au camp des loges le 15 juillet dernier, mais premier entraînement collectif après 16 jours. Alors, on ne va pas y passer sans plomb hein, sur ce qu'est Dano Sequeira, mais... pas de nonchalance de la part de Neymar, justement plein de carinho avec Marquinhos et Thiago Silva, et vous avez donc répondu à ma question.
Tu mélanges l'espagnol et le portugais avec
Carinho, non mais je ne suis plus la calinothérapie de Tourelle, je me suis fait avoir, mais vous êtes en train de répondre
très,
à ma question.
Il s'est bien fait avoir Tourelle avec son histoire de calinothérapie sur ses joueurs, notamment sur Neymar, on voit où ça a conduit Neymar aujourd'hui et où en est la situation aujourd'hui avec Neymar.
Exactement.
Ouais, la question que j'allais vous poser à tous les trois, justement, le joueur a 27 ans aujourd'hui, plus le sablier avance, plus on a mis une deadline, c'est-à-dire à la première journée de championnat, le rapport de force, il est côté Paris maintenant, parce que même si Neymar reste, il va être obligé de jouer. Il va pas pouvoir être sur un seul pied, il va falloir qu'il donne tout, même si c'est à contre-cœur.
T'en penses quoi, Arthur, toi?
Moi, Neymar, ces derniers mois, j'y réfléchissais beaucoup depuis sa dernière blessure contre Strasbourg. Je me disais que certes, les blessures, c'était pas non plus juste le fruit du hasard et que c'était un coup de malchance, mais je pensais qu'il pouvait s'en remettre. Et quand il se reblesse début juin face au Qatar...
Il est pas pourri son pied?
Pardon?
Je te coupe, mais je te laisse finir. Il est pas pourri son pied un petit peu, là?
Certainement.
Hein, vous souvenez de l'histoire, hein, la fissure de Jones, il arrive à Paris il y a deux ans avec un cale osseux qui a 8 mois. C'est-à-dire que quand vous achetez quelqu'un à 222 millions, moi, je sais pas, je veux savoir s'il est capable de faire des garçons ou des filles à ce prix-là. On s'est trompé là-dessus, François.
De toute façon, par rapport à l'état physique de Neymar, l'opération ayant été refusée par le clan Neymar contre l'avis médical de Paris Saint-Germain, pas mené par de Baltringue non plus, soit le professeur Saillant ou le docteur Roland. Donc, il va pas se faire opérer aujourd'hui, d'accord? Donc il va faire cette saison avec ce pied droit.
Oui, mais Jonathan dit de toute façon le terrain est miné d'entrée de jeu, c'est ça qu'on entend.
Mais c'est ce que je dis aussi.
Ouais. Moi, j'ai dit ça.
Vous dites son pied n'est pas pourri.
T'as dit que le pied, t'as dit
son pied. Son pied est pourri, mais on sait.
Ah bah c'est pire que miné. Hein.
Ah non, mais oui.
Il fallait qu'il se fasse opérer pour être avec une consolidation. Quasi sûr à 100%.
Exactement, sauf qu'il y a eu la opération. Coupe du Monde et tutti quanti.
Alors, ce qui me fait... Et la Copa América.
Et la Copa América aussi. Très franchement, sur le Canemar, pour en revenir à ta question initiale...
La deadline...
Le rapport de force.
Posé par le Paris, est-il à l'avantage désormais du Paris Saint-Germain ou du Brésilien?
Le rapport de force, de toute manière, il est toujours à l'avantage du Paris Saint-Germain sur ce mercato-là, dans la mesure où les portes de sortie de Neymar, on l'a répété plusieurs fois tout l'été, il n'en a pas. Il n'y a pas de porte de sortie. Le FC Barcelone ne savait pas que Neymar serait sur le marché des transfert cet été, à acheter Antoine Griezmann d'une manière peut-être un petit peu prématurée selon le goût du board du FC du Barça. Mais là maintenant, le Barça n'a plus d'argent à investir. Le Real Madrid, ils en veulent pas, on va être très clair. Ils ont d'autres priorités.
Ils ont déjà eu un cas social avec Gareth Bale, ils vont pas en prendre un second.
Ils veulent Pogba et puis ils veulent Mbappé l'été prochain. Le problème, c'est que trouve-moi un club là cet été qui est capable de payer la somme demandée par le Paris Saint-Germain et d'assurer les émoluments de Neymar. Il y en a pas. Donc quoi qu'il arrive, Neymar, il est coincé. Donc à mon avis, il y a le rapport de force, il y en a même pas. Il y a même pas de question à se poser. Il va être obligé de jouer. Il va être obligé de bien jouer, d'être motivé, parce que là, son image, quand on regarde depuis 2 ans, elle est sacrément écornée. Entre ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, là, les chutes, le concours de plongeon, plus là, ses caprices qui font que maintenant les gens en ont un petit peu marre de lui. Il va avoir une réception au Parc des Princes. On a eu le bonheur d'avoir Julien Cazard là pour annoncer son retour. Apparemment, les supporters parisiens lui préparent quelque chose d'assez extraordinaire chaque quinzaine de jours à chaque fois qu'il va jouer au PSG, enfin qu'il va jouer au Parc. Donc au final, c'est Neymar qui est un petit peu coincé dans cette histoire.
Aaron, le cirque Pinder, Lotari ou les Harlem Globetrotters, ces mercenaires, t'en as marre de ce PSG-là? Tu voudrais une équipe?
Alors oui, bonjour la team, bonjour à tous.
Salut Aaron.
Alors là, je suis très 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 énervé contre le PSG. Maintenant, ça fait 2 ans, 3 ans, je vais vous dire depuis l'arrivée de Neymar. Parce que vous savez ce qui m'embête, c'est que maintenant il a voulu prendre la grosse tête, il a voulu être numéro 1. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu son nouveau salaire, voilà, on sait tout ce qui s'est passé, et il n'a pas réussi à porter l'équipe. Bon, il a porté l'équipe en Ligue 1, mais moi je pense que ses blessures et tout ça, c'est pas le hasard. Je pense que moi il avait peur en fait, il avait peur de en huitième contre le Real, ça ouais le Real, de pas réussir son match en fait.
Tu vas loin, Aaron là.
Attends, mais j'essaie de voir jusqu'où il va, moi justement pour comprendre. Vas-y, Aaron.
Parce que moi, je vous explique, en fait, à l'aller, vous avez vu son match aller Real PSG quand il perd 3-1.
Et il n'est pas bon.
Ce qu'il me dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et après, bon, il se fait la blessure, il se fait la blessure contre l'OM.
Oui.
Et voilà. Et après,
il sort les radars.
Bon, il est peut-être malheureux, mais je ne vois pas.
Aaron, tu nous dis la peur entraîne une friabilité physique?
Ouais, exactement.
C'est psychosomatique. Exactement. Oh là là,
Un joueur comme Neymar ait eu peur d'en découdre avec le Real Madrid.
C'est pas un chauffrion, Neymar.
Et de suivre.
Avec le Real. Parce que la direction du PSG, justement, elle a été trop gentille avec lui.
Qu'il soit devenu docteur Mabou à l'âge de 25 ans parce qu'il prend quelques taquets, ça on peut l'entendre.
Mais non, parce que
c'est la psychologie d'épicerie, pardon.
Exactement.
Mais là, non.
Neymar,
que son corps soit plus meurtri qu'un autre joueur de 27 ans, c'est possible.
Neymar a montré tout au long.
Par les contacts qu'il subit plus que d'autres.
Qui se fasse chicorer, pardon. Oui, après les blessures.
Neymar a montré tout au long de sa carrière qu'il était là dans les grands moments. Avec le Brésil à la Coupe du Monde 2014, avec ses pressions de malade, c'est le seul joueur qui a été au niveau jusqu'à ce qu'il
se blesse contre la Colombie.
Bah après, cette blessure, c'est pas vraiment une blessure musculaire, elle est en comparaison.
Ah non, il prend un coup de genou dans la colonne vertébrale.
Mais non, mais c'est pareil, on avait entendu à l'époque, c'est un bout d'apophyse, c'est un bout de colonne vertébrale, c'est un bout d'épine d'un sapin, et on avait entendu, il pourrait être handicapé. On en fait aussi toujours un pataquès avec Neymar.
Après, il revient dans cette sélection brésilienne meurtrie, il les porte pour gagner les Jeux Olympiques, on sait que les JO au Brésil, c'est important. Il est là dans les grands moments, comme la remontada, le 6-1 au Nou Camp.
Mais Jonathan, tu l'as dit, et on est d'accord, c'est un joueur qui depuis 2 saisons, ce qui est beaucoup, s'est égaré.
Ça oui, ça c'est sûr, oui.
Il n'a pas perdu son foot, mais c'est un joueur qui, qui est sorti des radars avec ce transfert parisien et avec lui son ambition.
Le problème de Neymar,
plus égoïste.
Est-ce que c'est pas UBS de rester sur cette somme de 300 millions, même pas 222
Juste c'est Paris Saint-Germain. Intéressant là.
Non mais est-ce que
c'est
intéressant parce que
le problème
que depuis deux ans il met plus un pied devant l'autre.
Non, c'est pas qu'il met pas. Non. Thomas, il met pas. C'est pas qu'il met plus un pied devant l'autre. C'est qu'il a eu des fulgurances et que c'est un joueur exceptionnel. Après, c'est un joueur qui a une dette avec le Paris Saint-Germain par rapport à ses blessures, même s'il n'est pas directement responsable. Et c'est un joueur qui, dans le cadre, la discipline et sa rigueur personnelle pour prétendre être le champion que lui veut être, mais c'est perdu.
Le problème de Neymar, c'est pas ça. Non, le vrai problème de Neymar.
Mais il est dans un film, mais lui, il efface là.
Ouais. Écoute, le problème de Neymar, les gars, c'est que il a été très bon au FC Barcelone. Il a porté l'équipe, mais le problème, c'est que c'est un mec, je pense qu'il a besoin d'un cadre. Et le cadre, on sait que ça a été la chose qui a manqué au Paris Saint-Germain depuis depuis le départ de Leonardo. L'institution a toujours été absente et faible. Et quand tu prends un mec comme ça et que t'as pas, voilà, le moyen de le cadrer, avec un directeur sportif qui fait son boulot, avec un président qui fait son boulot, avec un entraîneur qui fait pas des câlins, et ben forcément ça te pète dans les doigts cette histoire.
Mais Jonathan, si tu regardes aujourd'hui le recrutement du PSG,
ouais,
tu regardes comment il est, c'est que maintenant ils vont plus s'attaquer à des grands joueurs.
Bien
parce
sûr.
Qu'on parlait de grands joueurs. Maintenant ils parlent à des joueurs, ils veulent des joueurs bons, mais qui mouillent le maillot, qui sont sérieux et qui
tu sais ce qu'ils veulent,
ils parlent pas beaucoup.
Aaron, ils veulent des joueurs qui soient flattés par le fait de venir au Paris Saint-Germain.
Exactement.
Et pas l'inverse.
Ouais. Mais oui,
et il y a aussi le fair play financier qui joue un petit peu dans cette affaire. On va pas se mentir.
Moi, si on me dit demain, Neymar, un échange avec le Real ou je sais pas qui, le Real ou la Juve ou quoi que ce soit, moi je prends direct.
Ah, donc toi tu prends direct Rakitic et Coutinho? Et 40 non, millions d'euros non, seulement
non, ils veulent pas 40 millions, ils veulent au moins l'ensemble des salaires pas, sur la fin du contrat.
Eux, ils voudraient, on me dit avec 130. La Juve, on me dit Dybala, Matuidi, plus 70 millions, moi je dis oui, hein. J'ai plus, et après je recrute quelqu'un qui remplace Neymar Dybala. Bon, Dybala, c'est un peu le même.
Ils veulent du cash, le PSG. Ils veulent du cash.
Dybala, c'est un petit peu plus outre-manche que c'est en train de se passer en ce moment. Merci, ouais. Aaron.
Ciao,
en tout
Aaron.
Cas, on attend peut-être le retour, donc, pour la reprise, le 11 août prochain, contre Nîmes, de Neymar, parce qu'on sait qu'ensuite, il y aura ces fameuses suspensions en Ligue des Champions.
Attends, elle prend fin. Parce que là, il y a suspension, elle prend fin avec le match du Trophée des Champions.
Il joue le 11 août, oui. Il pourra jouer contre Nîmes le 11 août prochain.
Ça n'a pas fait grand-chose.
Avec
côté.
Ou sans Neymar. On marque une petite pause. Vous continuez de réagir au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live, l'info de la soirée.
Reprendre contre Nîmes, c'est peut-être pas un cadeau pour Neymar. J'y pense pas. Non. Surtout si c'est au Costières.
C'est au Parc. C'est pas l'idéal.
On marque une respiration. On revient dans un instant. C'est l'after sur RMC jusqu'à minuit.
RMC, l'afterfoot, Thomas Desson.
François Manardo, Jonathan Marcardi et vous, les auditeurs, vous nous rejoignez au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live. On va parler du mercato. Si vous voulez aussi sur ce hashtag RMC Live, vous nous donnez votre FC talent déchu. Les 11 joueurs qui auraient dû faire une plus grande carrière. Pourquoi ? Parce qu'on parlera de Hatem Ben Arfa. Mais il est où ? Mais il fait quoi ? Mais où il va dans un instant ?
On s'en fout d'Hatem.
Non, dites pas un truc pareil. On s'en fout pas d'HBA. Tout de suite. On ne s'en fout pas non plus. De l'info de la soirée, battu en Israël, mais qualifié néanmoins, le Racing Club de Strasbourg, battu 2-1, mais 4-3 sur les deux matchs, et il pourrait affronter le Lokomotiv Plovdiv de Bulgarie, qui mène 3-1 contre les Slovaques, j'y arrive pas.
Plovdiv,
c'est simple en fait.
C'est l'autre qui est plus difficile. C'est s'il joue les Slovaques que c'est plus compliqué.
Ça va être plus compliqué.
Il y a trois consonnes de suite, je crois.
C'est simple comme Thierry Loret, qui était en zone mix au micro d'Aurélie Dlien. Tiercin.
On est venu pour ça, donc on savait aussi que le Maccabi était une très bonne équipe. Je l'ai dit après le match aller, je l'ai dit hier en conférence de presse, et ça a été confirmé aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on n'a pas tout à fait pris le match par le bon bout à partir du moment où le Maccabi a marqué le deuxième but. C'est vrai que tu te retrouves hésitant parce que tu aimerais marquer le deuxième, mais tu veux surtout pas prendre le troisième. Et c'est vrai que ça nous a empêché de nous libérer un peu trop, à mon goût. Mais on va dire que l'essentiel est fait et que on est au prochain tour, on est au troisième tour qualificatif et on espère passer encore ce prochain tour.
Aurélien, t'as commenté ce match, entame parfaite, but d'Ajorque après 17 minutes et ensuite devant nos écrans, grosse frayeur. Est-ce que tu l'as partagé au micro également?
Ah oui, 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 bah tout allait bien, tout était parfait, c'était vraiment, ça roulait parfaitement, ce but de Ludovic Ajorque, la maîtrise technique des Strasbourgeois, le retour de Stéphane Mitrovic, et puis effectivement, ça se rapprochait du caca culotte, parce que sous la pression des 25 000 supporters, ils avaient promis de mettre le feu, ils l'ont mis, entre les buts de Choua et de Rukavitsia, il y avait tous les drapeaux israéliens de sortie, il y avait vraiment une ambiance très très particulière, on sentait que c'était voilà, la vie à la mort, là. Quand il y a eu le deuxième but de Rukavitsia, ça a tremblé de tous les côtés, tout le monde était debout, même les journalistes, ça serrait les poings, il y avait presque un petit peu de rage dans cette partie. Et là, les jeunes Strasbourgeois ont commencé à trembler, même pas que les jeunes, parce que Stéphane Mitrovic notamment a fait une tête en retrait, une passe en retrait de la tête très très molle, heureusement sauvée par Matt Sels. Il y a eu des passes également pas beaucoup appuyées, des raids dans la surface de Jonas Martin qui se fait prendre le ballon. Et puis par-dessus tout ça, Matt Sels qui était malade, qui avait une gastro en fait, qui a vomi pendant la première période.
Donc ça,
je l'ai pas réussi à le voir pendant la première période. La rentrée de Binguru Camara, qui est pas le gardien le plus rassurant de France.
Ah, c'est sûr.
Bon,
c'est sûr.
Voilà. Donc
Jonathan,
la tenue, c'est assez
bien. Les 3C au moins 10 fois dans la soirée. Les 3C, c'est caca.
C'est une expression labellisée par la
bien, c'est le label. On a entendu blessure au dos pour Sels remplacé à la mi-temps. Vous dites non, des problèmes.
Alors, c'est ce qu'on croyait au départ, et après le match, Thierry Loré nous a confirmé que c'était bien un problème digestif pour le gardien belge.
Merci Aurélien, on espère évidemment que cette aventure du Racing
Aurélien, il va bien Gilbert ou pas?
Il va très bien, il avait vécu une soirée compliquée, mais à la fin c'était grand sourire, donc tout va bien.
Ça va. Allez, amusez-vous bien, salut les mecs.
Salut. Beaucoup de soulagement pour Gilbert Bribois, l'Alsacien, vous le savez, et Aurélien Tiercien qui avait pris au commentaire. On repasse à ce match, ce trophée des champions. On le disait tout à l'heure, 8 victoires dans le trophée des champions, 6 de suite pour Paris. Est-ce que Rennes, cette saison, en marge également de ce match, messieurs, peut franchir un cap? Ils ont presque attendu un demi-siècle sans titre, 48 ans de frustration. Là, c'est une année, l'année dernière, où ils se sont remplis les corps caverneux. C'était très excitant. Est-ce qu'il va falloir attendre encore 50 piges, François, pour vibrer quand on est le Stade Rennais?
Ils ont pas l'effectif aujourd'hui pour... mais bon... Leur entraîneur a dit qu'il fallait attendre la fin du mercato et on va le suivre. Mais ils n'ont pas l'effectif forcément aujourd'hui pour se stabiliser dans les cinq premières places du championnat. Mmh. Sachant que dans les cinq, il y en a une qui est dévolue aux Parisiens, forcément. Mais j'ai toujours, moi, du mal, mais depuis longtemps, à lire la stratégie de la famille Pinault, qui est la première fortune de France. Pour donner un ordre d'idée, ils sont quand même encore beaucoup plus riche que Jim Ratcliffe qui vient d'arriver à l'OGC Nice.
Si vous voulez acheter Cristiano, il pourrait l'acheter. Ça comme ça.
Ça se compte en dizaines de milliards d'euros.
C'est pas la même assiette, mais... François, mais 8e budget avec 68 millions. En deux temps, trois mouvements, je sais que ça fait un peu démago, mais ils ont donné 100 millions via Artemis pour reconstruire Notre-Dame. Avec 100 millions, vous êtes le quatrième club français, là. 100 millions plus les 68, ça pourrait faire...
C'est pas leur stratégie. C'est pour ça que je ne sais pas.
Il est échaudé parce qu'il s'est passé, tu te rappelles, avec Falifa, quand ils avaient fait les grosses dépenses.
Lucas Severino?
Ouais. Fabiano et compagnie.
Oui, enfin.
Ça l'a un peu échaudé.
C'est ce qu'il disait. Ah, c'est une réticence, Jonathan.
C'était 100 millions pour ça.
C'est ce qu'il disait, c'est que voilà.
En 2001.
Après. 2000 ou 2001. Très franchement, là, tu regardes l'effectif. Alors oui, Benjamin André, le taulier, avec la paire avec Clément Grenier, c'était une des meilleures paires de Ligue 1 au milieu de terrain. Benjamin André, il est parti, il est pas remplacé. T'as le cas Rami Ben Sebaini qui va se poser. Il a un an de contrat. Le club est pas forcément fermé à un transfert. Vu la canne qu'il a fait, une canne du feu de Dieu, à mon avis, il va avoir des offres. Donc s'il part, ça pourrait faire une très grosse perte. Et puis, bon, bah, il y a le départ de Ben Arfa, Ludovic Ball, entre autres, et de Mehdi Zéphane. Maintenant, cet effectif-là, moi, ce que je veux, c'est juste attendre un petit peu parce que Olivier Létang, que j'ai beaucoup critiqué quand il était au Paris Saint-Germain, depuis qu'il est arrivé à Rennes, je trouve qu'il fait les choses vraiment dans l'ordre. Il a construit une équipe qui était quand même somme toute assez séduisante l'année dernière, à la fin du mercato. Ça s'était fait aussi assez tard, les arrivées à Rennes. Et que si Julien Stéphan dit qu'il y aura une fin de mercato agitée, je préfère encore un petit peu attendre avant de juger l'effectif rennais pour la saison à venir.
Oui, certes, ça c'est, tu parles de Rennes de manière intrinsèque. Mais après, sur la question de Thomas, est-ce que c'est un club qui peut être pérenne et se placer de manière régulière? Je parle même pas des 10 premières places, mais vraiment des 6-5 premières places du championnat de France et viser à un moment donné aller régulièrement en Coupe d'Europe, voire atteindre la Ligue des Champions.
La Ligue des Champions, non.
C'est quelque chose que j'ai, encore une fois, j'ai du mal à lire du côté de... Alors, pas d'Olivier Létang, mais encore au-dessus de lui.
Moi, je vois une dissonance, messieurs. Olivier Létang, on parle d'être attentif à la qualité, du développement des jeunes joueurs, et pourtant, écoutez, Julien Stéphan, lui, il aimerait que ce mercato soit plus étoffé.
Il nous manque des joueurs, bien sûr qu'on va se renforcer, c'est nécessaire. On se renforce dans tous les secteurs de jeu, dans toutes les lignes. On a besoin d'avoir des joueurs d'expérience, d'avoir des joueurs qui apportent de la maturité et aussi de la personnalité à cet effectif, qui encore une fois aujourd'hui est certainement trop jeune. Donc ça va s'accélérer dans les semaines à venir.
Et on a oublié Mecher aussi, qui est parti gratos à Bordeaux et qui était quand même un joueur important de la défense rennaise.
Bien sûr. C'est l'ancien entraîneur des U19. Est-ce que c'est pas lui le mieux placé pour dire que les jeunes n'ont pas assez de cuir pour évoluer en Ligue 1?
Mais bien sûr. Mais là, l'effectif, il est pas au niveau par rapport aux ambitions que le Stade Rennais doit avoir. Après, François, je te rejoins. Viser à la Ligue des Champions, à mon avis, c'est mort. Par contre, stabiliser le club entre la 5e et la 8e place, le Stade Rennais a largement de quoi faire. Ils ont le 8e budget quand même.
Alors sur ce que j'ai dit sur la Ligue des Champions, après je vais refroidir tout le monde, hein, mais si la réforme de la Ligue des Champions passe bientôt,
oui, bah ils y seront pas, on
donc,
le sait.
Non mais plus personne n'y sera à part un club. Donc en fait, il va falloir qu'on enlève de nos bouches le fait de dire ouais, viser la Ligue d'en, c'est
ouais, bien sûr.
Ils veulent tenter de faire des coups, on va parler puisqu'on parle mercato du cas Laurent Koscielny.
C'est un joueur qui remplit les cases d'expérience, de maturité. Bien évidemment que c'est un très 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 bon joueur. Mais le président s'est exprimé sur le cas de Laurent Koscielny il y a quelques jours. Aujourd'hui, il appartient à Arsenal. Arsenal ne semble pas souhaiter le libérer. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de discussion aujourd'hui entre le club et Laurent Koscielny. Il est sous contrat. Donc voilà, mais c'est un excellent joueur.
Je dis pas que c'est aussi épineux que Neymar, je vous donne un autre élément d'information. Match du centenaire du SCO d'Angers hier contre Arsenal, où Unai Emery a dit pour l'instant mon meilleur défenseur central c'est Laurent Koscielny. Ils en ont 6 mais sont très friables. Les Gunners ne peuvent même pas se permettre de se séparer de Laurent Koscielny qui lui ne veut pas de cette prolongation.
Oui, bah il va falloir trouver une solution. Et puis ils ont dépensé là, ils ont mis 80 patates sur Nico Pepe, donc il va falloir trouver une solution. Koscielny de toute manière, à mon avis, d'après ce que j'ai compris, il était plus promis à Bordeaux de toute manière.
Oui, c'est même l'info Bordeaux que Pierre Ducrot avait ramené, puisqu'il avait eu un retour bon. Comme quoi.
Et Pierrot, il est fiable.
Maintenant, le coach. Oui, Pierrot est fiable.
Oui, mais en 3
mais maintenant, le coach semaines. Vient de dire, mais oui, évidemment, c'est un joueur qui nous intéresse. Après, il faut savoir ce que le joueur dit, ce que les clubs disent. Mais a priori, c'est plutôt Bordeaux,
c'est Bordeaux donc y a pas
qui tiendrait la corde.
Ouais. Guillaume est au 32-16. Tu nous dis, Guillaume, urgemment, il nous faut encore du renfort.
Salut, Guillaume.
Salut, les gars.
Salut, Guillaume.
Ah bah oui, il nous faut du renfort, hein, parce que là, quand vous avez tout dit, hein, quand vous prenez l'équipe qui a battu le PSG, enfin qui a fait match nul contre le PSG en finale de Coupe de France, et à cette équipe-là, vous enlevez Mecher, vous enlevez André, vous enlevez Sarr, Traoré, Ben Sebaini, ça fait quasiment bah, plus de la moitié de l'équipe. Je vois pas vraiment comment on peut espérer perdre par moins de 3-4 buts d'écart.
Surtout vu l'état de la défense là. Hein.
Très très compliqué là.
Surtout vu les absents en défense.
Ouais c'est ça. Alors après sur le papier on a des très belles pépites qui peuvent arriver, notamment Kamavinga pour remplacer André. Mais comme vous le disiez, c'est des pépites et il faut quand même un mec d'expérience à côté pour la faire grandir.
Guillaume, au milieu de terrain.
Là, ça me fait peur.
Au milieu de terrain, il faut un joueur d'expérience.
Ah bah exactement.
Tu peux essayer de lancer des jeunes sur les côtés, offensivement, tout ça, mais au milieu de terrain, t'es obligé d'avoir un mec qui est surtout au poste auquel joue Benjamin André, c'est-à-dire vraiment devant la défense. T'es obligé d'avoir un mec qui connaît la Ligue 1.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin nous qui suivons le Stade Rennais, il y a des bons jeunes.
Oui, ça c'est
ça
sûr.
Ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Et donc il nous faut au moins 4-5 recrues. Alors on a une demi-recrue, c'est le départ de Ben Arfa. Ça, je considère que c'est une recrue.
Exactement.
Parce que ce sera un point en moins dans l'équipe.
Et un salaire, hein, le plus haut salaire, on va en parler dans un instant, mais c'était quand même 400 000 euros par mois derrière Clément Grenier à 280. Donc ça peut permettre pas mal de choses.
D'un côté, il y en a un qui le mérite et l'autre qui ne le méritait pas du tout, quoi.
Pour rien, 400 000 euros dans le vide, hein, parce qu'il ne servait à rien. Sur le terrain, c'était fantomas.
9 buts, donc, 6 passes décisives. Alors, TCC, puisqu'on parle d'essai, toute compétition confondue, effectivement.
Fantomas, si vous n'êtes pas un peu quand même contre le Betis de Séville.
Bah ouais, mais si tu payes un mec 400 000 euros
mais c'est juste
mois.
Ça, juste ça, entre rien du tout et
et puis je sais pas de ce côté-là, Balotelli, il a marqué aussi des buts à l'OM, mais il a quand même servi à rien au final.
Non mais on va vite dans les superlatifs, dans 500. L'exigence avec Atem Ben Arfa. Il a quand même fait une deuxième partie de saison assez cohérente. Après, il vous flingue la révélation des entraîneurs de l'année en fin de saison quand il n'est pas content. Et puis, effectivement, on va l'aborder dans un instant. 1er août,
il
pas
a
de club.
Fait, les gars, il a fait une saison moyenne. Il a
faut arrêter de regarder les résumés qu'on peut faire du Stade Rennais et regarder vraiment les matchs.
Il a fait une saison moyenne.
Regarder les matchs. Il fait 2-3 éclairs sur le match et terminé. Dans le résumé, on voit ça, on se dit, ouais, il a fait un bon match.
Et je te rejoins parce qu'il a pénalisé le collectif rennais sur plusieurs matchs où il faisait pas le boulot, c'était un poids mort et où quasiment Rennes jouait à 10. Donc, je te rejoins.
C'est pire que ça. Moi, je considère que la présence de Ben Arfa sur le terrain a inhibé Ismaïl Assar, qui a un jeu de profondeur et Ben Arfa lui mettait aucun ballon.
Alors, Flavien Tay, tiens, qui peut jouer sur le côté et qui peut jouer en soutien de l'attaquant qui arrive du SCO d'Angers.
C'est une super recrue.
Pas mal, ça.
Ça, c'est une super recrue. C'est un joueur qui aurait pu signer à Lyon, qui aurait pu signer à Marseille. C'est une super recrue.
Ah oui, ça, je l'ai vu jouer un petit peu dans les matchs amicaux. On sent que le mec, il est dans le panier, mais dans le haut du panier. Voilà, très très bonne recrue. Et il en faudrait 2-3 autres comme ça, ouais.
Il a 3 poumons, ce Flavien Tay. Sébastien, on a envie d'avoir ton avis également. On posait la question, Sébastien, est-ce que Rennes, grâce à cette qualif, grâce à toutes ces émotions vécues, va ou peut franchir un cap?
Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bah,
salut. Moi, personnellement, ça va être un peu compliqué pour l'instant parce que pour ça, il aurait fallu qu'on garde l'ossature. Bon, on a perdu Benjamin Rondré qui était quand même la plaque tournante de cette équipe. On a perdu Mexer qui a fait une saison d'enfer.
Ouais.
On a perdu des joueurs quand même relativement corrects. Et aujourd'hui, offensivement, on n'a pas recruté pour l'instant, pour moi, par rapport à la saison passée.
T'as Flavien Tay.
Pardon?
T'as Flavien Tay que t'as recruté quand même.
Ouais, ça c'est vrai, c'est une super recrue.
Si on dit qu'on remplace Ben Arfa par Tay, t'es bien. Hein.
Oui, mais aujourd'hui, pour passer un cap, il faut qu'on ait des joueurs qui soient au-dessus de ce qu'on a au jour d'aujourd'hui dans l'effectif rennais. On est bien d'accord.
Vous avez recruté Niang aussi, l'option d'achat levée. Fallait
payer,
payer les 15 millions d'euros.
Oui, effectivement, on va pas dire non plus qu'on n'a pas des. Certes, on a des bons joueurs. C'est pas ça que je veux dire.
Pour remplacer un joueur comme André aussi.
Mais pour passer un cap, il faut absolument qu'on puisse avoir des joueurs qui soient un peu plus expérimentés en Ligue 1. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cas. On va repartir avec un effectif. Pour l'instant, donc on va recommencer le championnat avec un effectif avec des jeunes. Les jeunes, bon, faut qu'ils se confirment, faut qu'ils acquisent l'expérience, ce qui n'est pas le cas. Pour l'instant, ils n'en ont pas, ou très peu. Pour certains, il y en a un peu, Kalavinga un petit peu, ce qu'il a joué un peu l'année dernière, mais autrement, le reste de l'effectif, les jeunes qu'on va mettre, il va falloir qu'ils prennent du temps de jeu. Donc tout ça, le temps que ça se mette en route, et si jamais le mercato traîne un peu, ça va être compliqué de pouvoir se dire d'ici un mois et demi, deux mois, Rennes, effectivement, ils ont franchi un cap.
Je disais, il y a un joueur que j'attends quand même beaucoup cette saison du côté rennais qui a été blessé l'année dernière, c'est Jordan Sibatcheu, qui avait montré des belles choses. Et je pense qu'au poste de numéro 9, allez, avec une saison pleine, avec une prépa correcte, ça peut être un joueur à surveiller. Pour la Ligue 1 et pour mon petit gazon.
Mais.
C'est placé.
À la place de ou en association avec?
Les deux, il peut jouer.
Moi, si Rennes joue à 3 devant, c'est Niang qui tient la corde. Mais c'est un joueur que j'aimerais bien voir.
Attends, François, jusqu'à 6 blesses, c'était lui le titulaire. Hein.
Il a combien de matchs chez Batcheux?
Il fait des
fort de ses matchs
pour
moi, hein,
parce que
sur cette lancée-là.
Est-ce que j'ai oublié ton prénom? Excuse-moi.
C'est Sébastien qui est avec
toi. Sébastien, on est d'accord. Jusqu'à ce qu'il se blesse, c'était lui qui était plus ou moins titulaire au poste de numéro 9.
Tout à fait.
Et Niang était plutôt sur le banc ou sur un côté même.
Ouais, Niang en début de saison, il était vraiment en dessous de tout quoi.
Il a commencé à jouer quand Sibatcheu se blesse et puis il est monté en puissance au fur et à mesure de la saison.
Exactement.
Mais Sibatcheu, moi j'ai vraiment hâte de le voir cette année.
Tout à fait, on est bien d'accord.
Merci.
Mais moi nous pour l'instant, tout ce qu'on sait c'est qu'on pour l'instant on est dans l'attente de voir ce qui va se passer en mercato.
Merci Sébastien, effectivement, parce que cette préparation c'est 2 nuls et 2 défaites. Merci pour ta contribution. Rennes qui espère avoir un mercato un peu plus garni d'ici à la fin de l'échéance. Et évidemment, le rendez-vous du Trophée des Champions à Shenzhen à partir de 13h sur RMC Sport News et RMC avec le retour de coach Courbis qui sera aux côtés de Benoît Boutron 30 minutes avant le coup d'envoi de ce match. Il est parti de Rennes le 30 juin en réussissant à mettre un tir à Julien Stéphan notamment. On est le 1er août. Il n'a pas de club.
Bien
où
fait.
Va aller Atem Ben Arfa? On en parle dans un instant dans l'After sur RMC.
RMC, l'After Foot, Thomas Desson.
Et l'info, messieurs, que tout le vieux continent attend, évidemment, c'est que Strasbourg ira en Bulgarie affronter Plovdiv le 8 août prochain avant un match retour à la
Méno. Le marqué.
Ça y est, c'est fait, c'est acté. Hein.
2-1 pour...
3-1 à l'arrivée.
3-1 pour...
C'est terminé. Ce sera Plovdiv, Racing, Racing, Locomotive, Plovdiv pour ce troisième tour préliminaire. Only God can judge Mina. Seul Dieu peut me juger, disait Atem Ben Arfa. Ben non, l'after aussi.
Toujours soigné.
J'ai essayé Mina, j'ai essayé Kant, etc. Bon, j'ai essayé Socrate, etc. J'ai essayé. Bon, j'ai pas réussi.
Trop de choses venaient dans ma tête. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Je me posais des questions. Et je voyais les gens, ils se posaient pas de questions. Je disais, pourquoi je peux me poser des questions? Je suis bizarre ou quoi? Et je me posais beaucoup, beaucoup de questions. Après, j'ai réussi à trouver quelques réponses.
J'ai rien compris. Ça m'intéresse pas. Si ça doit, si ça doit être plus sérieux, ben, on verra.
Mais comme j'ai dit, dans la vie, et par rapport au président, il faut jamais sous-estimer son adversaire. Parce que voilà, un jour, il revient et voilà. Il faut toujours respecter l'humain. Quand on respecte l'humain, ça se passe bien. Mais quand on respecte pas, à un moment donné, tu le payes. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais. On doit respecter l'être humain.
Si on me donne ma chance et que je suis pas bon, je partirai de moi-même. Même pas, je comprendrai. Mais j'ai besoin qu'on me donne cette chance.
Je suis seul au monde. Je vais pas citer Corneille, mais je vais citer Adrien Paré qui nous a fait cette petite production qui nous permet d'être paré à dégainer. 1er août, pas de club. Touché 500 000 au Paris Saint-Germain par mois, 400 000 à Rennes, Atem Ben Arfa qui n'en veut. Pour moi, il y a 3-4 semaines, messieurs, c'était la Turquie qui était marquée dessus. A priori, l'Espagnol souhaiterait faire une offre. Mais est-ce qu'il va l'accepter?
Mais encore une fois, le mec, il se met dans la même situation. Lui, il mérite fessé cul nu au lit, hein. Parce que très franchement, là, on est le 1er août, comme tu le dis, il a pas de club. Les clubs ont commencé leur préparation physique. Lui, je veux bien que tu t'entraînes, hein, dans ton coin. Mais ça remplace pas l'émulation de groupe, ça remplace pas le rythme que tu peux prendre dans les matchs amicaux. Et il va encore s'il trouve un club, et je dis bien si, parce que je pense que, et j'espère que beaucoup de clubs sont désormais échaudés par son comportement. S'il trouve un club, il va encore prendre du retard pour sa saison.
Fessé cul nu au lit, Jonathan, il a 32 ans, passé par l'OM. Il a fait PLM, hein, le Paris Saint-Germain, Nice, Rennes. Il y a eu évidemment Newcastle et Hull. Le Betis, justement, avec le match qu'il avait fait contre eux, c'est souvent cette jurisprudence. Tiens, un mec fait un bon match contre nous. Bertrand Traoré avec l'Ajax, l'OL le veut. Aurez-vous voulu se positionner? Nabil Fekir chez les Verdi Blancos. Donc, du coup, on oublie l'Espagnol. Mine de rien, l'Espagnol, 7e l'an dernier, derrière Séville, devant Bilbao.
La question, les amis, c'est quoi? C'est est-ce qu'il a encore du foot à régaler?
Est-ce que
à offrir
vraiment
à
il peut prétendre
Benarfa,
à un club de Liga? Est-ce que vraiment lui peut prétendre à ça?
C'est un cas social sur lequel il faut se focaliser parce que il va te mettre un vestiaire à l'envers et parce que il va faire le con et parce que.
Non, c'est Atem Ben Arfa en période de mercato. Où est-ce qu'il pourrait aller? Où est-ce qu'il pourrait encore rendre service?
Il peut aller pas dans un club auquel son talent au départ lui aurait permis d'ambitionner. Après, ça laisse beaucoup de possibilités. Mais si ces possibilités, ne lui correspondent pas, ne lui vont pas, c'est son affaire, c'est son problème.
Jonathan, tu l'as dit tout à l'heure, pour moi c'est une énième faute professionnelle. Le 5e match amical de Montpellier avec une équipe remaniée, c'était contre le collectif de l'UNFP. Grosso modo, les chômeurs. Dedans, il y a quand même des joueurs. Il y a Ketkeo Fanfan, il y a Christophe Otomandan, il y a Ayari. Donc il y a des joueurs niveau Ligue 1, Ligue 2. Il aurait pu briller.
Alors après, c'est quand même un petit peu compliqué. Je t'ai dit, on les a eu, les gars, qui, d'ailleurs, j'espère, on leur fait une grosse bise, qui sont venus nous voir en plateau pour nous expliquer comment stage était. Oui, c'est très bien. Mais par exemple, Ludo, Aubraniac, nous expliquait que lui aussi, une année, ça a tardé à se décanter. On lui a proposé de faire ce stage-là. Et il a refusé parce qu'il voulait pas avoir l'étiquette chômeur. Et puis, t'as quand même un certain ego. T'as peut-être pas envie de faire ce genre de choses.
Ça peut être une erreur aussi.
Exactement.
Ça peut aussi être.
C'est ce dont Ludo avait peur.
Ça peut être un boulet traîné parce que vous êtes sans club. Si vous êtes sans club,
C'est ce dont Ludo avait peur, tu vois, d'avoir l'étiquette chômeur. Donc, je pense que ça, on peut pas vraiment juger de ce choix-là. Moi, après, pour en revenir à Ben Arfa, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que lui a encore envie de jouer au foot? Je pense que oui, il a envie. Puis ses déclarations en fin de saison, quand il désingue Stéphane, là, encore une fois, ça aurait mérité une autre fessée cunie au lit. Mais le problème, c'est que
faire votre caca-culotte, hein, quand on va, enfin, bon, bref.
Okay.
Le problème
pour ce garçon, pour terminer, c'est que, très franchement, t'as l'impression qu'il répète les mêmes erreurs d'année en année. Il a connu des sacrées galères dans sa carrière. On se rappelle, hein, François Oul sera le mieux placé pour en parler, mais l'imbroglio Oul avant de signer à Nice, par exemple. Il a connu des longues traversées du désert. Là, il était dans un club avec un entraîneur qui est talentueux, avec un projet qui est, même si on l'a un petit peu, voilà, on en a parlé tout à l'heure, qui reste un projet quand même cohérent. Là, de faire ce qu'il a fait, de se faire harakiri comme ça, tu dis, hé, garçon, t'as pas compris encore que l'année dernière, t'as mis 2 mois avant de te mettre dans le bain parce que t'avais pas trouvé de club au mois d'août et que t'as signé
contre,
très tard.
Contre Guingamp, il me semble. Là, c'est à la suite du match contre Guingamp qui dit qu'effectivement, il n'y a pas de fond de jeu dans cette équipe.
Il recommence l'erreur, là.
Et que c'est catastrophique, alors qu'effectivement, Rennes a fait vibrer beaucoup de monde le jeudi soir, notamment sur RMC.
Je vais fanfaronner 2 secondes. Je le connais un peu à thème.
Il a ton portable qu'il t'appelle.
Le peu de fois où on l'a eu en équipe de France. À thème, dit autrement que ce que Jonathan a dit, mais qui est juste, c'est un homme maintenant de 32 ans qui a une tendance, peut-être inconsciente ou pas, mais à chercher la difficulté, à se mettre seul dans la difficulté. Il a envie d'incarner le mythe du phénix qui va renaître à chaque fois de ses cendres. Sauf que c'est des renaissances de plus en plus difficiles, compliquées, et que ça le dessert beaucoup plus que ça ne l'avantage. Évidemment que ça le dessert. Mais c'est...
Quand Jonathan parle de se faire harakiri, il le fait consciemment. Mais quand je le côté parle de Don Quichotte, non, c'est...
Consciemment, je ne crois pas. Je ne pense pas, même. Il y a une chose qu'on entend dans le générique qui m'a fait sourire parce que c'est quelque chose parfois qui me disait. Il y a beaucoup de gens qui me parlent dans la tête, mais en même temps. Il a cette tendance, évidemment malheureusement pour lui, mais tout va bien. Et quand tout va bien, comme à Nice, eh bien il va aller vers les difficultés. Parce que quand il quitte l'OGC Nice après une saison probante, enfin, il a Séville et le Paris Saint-Germain, un club familial et une grosse cylindrée de la Ligue 1 et un gros club européen. Ouais. Et il choisit la difficulté. Et ce fait de choisir à chaque fois la difficulté, à thème, bah, il plonge.
J'arrive pas à croire que mal. Après un match de Coupe de France contre Avranches, placard pendant 15 mois, parce que il a tapé sur l'épaule du chèque et vous êtes placardisé pendant 15 mois.
Il tape pas sur l'épaule du chèque.
Non, il dit au président.
Il dit au président, devant le président délégué, qui s'appelle Nasser El Khelaïfi, ça tombe bien que je puisse vous parler à vous, parce que l'autre là à côté, pour lui parler, c'est impossible. Et c'est juste l'erreur ultime. Et ça, pour moi, c'est à thème. C'est-à-dire que, déjà qu'il est en difficulté avec Unai, et ben en plus, il va se tirer une balle dans le deuxième pied.
Donc il y a quand même une inconscience, un côté tête brûlée. Il est brillantissime, il peut l'être, mais à côté de ça, il se plonge aussi.
Voilà, je m'arrêterai là.
Ça nous a quand même inspiré, parce que vous allez chez vous brainstormer, vous grattez un peu la tête. Tous ces joueurs qui ont suscité les plus grands espoirs, et puis finalement, à l'arrivée, flop, à l'INF Clairefontaine, ça y est, c'est déjà gagné. Parce que Atem Ben Arfa fait partie de cette équipe de 2004 qui est championne d'Europe chez les U17. Tiens, tout à l'heure, en préparant l'émission avec Jimmy Brand, j'ai dit, mais tiens, le capitaine qui ressemblait à Marcel Desailly, mais il est où, Loulou? Il y a quelqu'un, Steven Tico.
Il est dans la même équipe, ouais.
Il joue en Malaisie aujourd'hui, depuis 18 ans.
Lequel?
Tico.
Steven Tico, port de tête très haut,
super
dreadlock,
défenseur central, on pensait que c'était
à 17 ans. Il faisait partie de cette équipe championne d'Europe avec les Samir Nasri, avec les 3 buts d'Atem Ben Arfa et voilà
et surtout
et d'autres.
Le plus grand talent.
On n'est pas en train de faire la promo de Daniel Riolo, on n'est pas en train de dire Rakai Football Club.
Le plus grand talent de cette équipe, c'était Amadi Ahoui. Ah oui.
Eh ben, commencez à réfléchir chez vous. On en débattra juste après le mercato d'Angie Luata. Voilà, en tout cas, pour le cas Atem Ben Arfa, l'Espagnol voudrait à quel prix? Dans cette équipe, il y a Borja qui a mis 17 buts. Il y a Sergi Darder, tiens, qui est un peu le Atem Ben Arfa espagnol qui jouait à l'OL. On l'attendait un peu plus haut à Lyon.
Il est très correct, Darder, en Espagne.
Il ne pas prétendre.
Il est très bon.
Non, moi, en revanche, un joueur dont on attendait beaucoup et qui a déçu, à un poste qui s'apparente à celui d'Atem, c'est le Atem Ben Arfa néerlandais.
Ah oui, très beau. Très bien.
Citation, hein. Enfin, on va mettre quelques mentions.
T'as fait une équipe.
Jonathan en a donné.
Moi, j'ai fait une équipe purement française.
Non, mais on vous a fait bosser, voilà. Alors, Jimmy avait dit le World Talent Déchu.
Moi, j'ai fait juste
déjà en franco-français, il y a quelques noms qui vont ressurgir. Angie Ouattara est en train de s'installer tranquillement avec nous parce que ça a bougé énormément aujourd'hui dans le Mercato. C'est donc le Mercato Show avec Angie Ouattara.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le marchander.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Alors moi, j'ai une théorie sur les initiales comme un trident offensif. Nicolas Maurice-Belay, Kevin Monnet-Paquet. Ça file tout droit. Un peu comme Alan Saint-Maximin.
Alan Saint-Maximin.
ASM.
Salut Thomas.
Salut
à tous. Comment vous allez ?
Angie. Ouais, ça va et toi ?
Bien, plutôt bien. Il y a pas mal d'infos aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, Alan Saint-Maximin, pour commencer, qui va signer à Newcastle. Information RMC Sport. Deux offres qui avaient d'abord été refusées. 16 et 18 millions d'euros. Et puis Newcastle, au troisième coup, a réussi à arracher tout ça en rajoutant les fameux bonus. Tu sais, 18 millions plus des bonus. Ils ont ajouté ces bonus. Et donc les dirigeants de Newcastle qui sont en France pour finaliser les derniers détails de cet accord avec le GC Nice. Tu me diras pourquoi ça te fait marrer, François. En tout cas, c'est dealé. Le joueur va signer un contrat de 6 ans. C'est un contrat super.
Ça sent le hashtag tiens, talent.
C'est rare.
Ouais, c'est 6 ans. 6 ans.
Bon, 4, 5, 6, ça, c'est pas. Allez, François, commande-nous ça. C'est quand même un joueur de ton club.
Non, mais moi, ce que je veux commenter, c'est que heureusement qu'il y a Newcastle qui existe en Europe
pour
récupérer des Frenchies un peu bracassés ou alors potentiel.
Robertson, Gouffran, tiens, il nous parlait de Yang Zamiwa tout à l'heure.
À la fin, t'avais vraiment envie de faire le nœud du paquet cadeau et le mettre
le meilleur
dans
français
dans
là-bas, ça a été Cabaye peut-être.
Cabaye. Toi, t'en avais 7, ça, Maxima, à Nice.
Mais je pense que tout le monde à Nice, je suis presque sûr que tout le monde à Nice, à la fin, en avait un peu. Ce qui était affiché et ce que tu voyais,
Le comportement
les samedis,
aussi.
Dimanche. Oui, comportement un peu spécial. Gentil garçon.
Il sera sur RMC tous les week-ends parce qu'on a la première ligue. Non, mais on est content de voir les joueurs de Châteauneuf entraînés par Steve Bruce. Hein, ce sera plus
rapide. C'est un choix de carrière bien pourri. C'est tout ce que je dirais sur
les. Et les 18 millions plus des bonus, les fameux bonus, c'est.
Toujours Benitez qui entraîne ?
Non, c'est Steve Bruce.
Oui, voilà. Je comprends mieux aussi pourquoi ils font cette erreur.
Ça inspire quoi aux Niçois et aux supporters niçois, François ? 18 non, millions plus Zéonis pour Saint-Maximin. J'ai entendu beaucoup de gens qui ont dit oh là, c'est pas assez Saint-Maximin. Il court tellement vite qu'on peut le vendre 25 millions
vendus. Donc c'est
très bien.
C'est plus, c'est bien. Quand c'est plus, c'est mieux.
C'est des petites plus-values comme ça, Saint-Maximin. Ça a été 5 millions d'euros de Saint-Etienne à Nice. 10 millions d'euros de Nice à Monaco.
J'étais persuadé que le choix était judicieux pour lui d'aller à Nice plutôt qu'à Monaco, d'y rester.
Écoute, quand il était bien encadré, qu'il avait un peu moins les clés comme il les a eu cette saison, c'était pas mal, avec quelques belles fulgurances, quoique Favre au départ l'utilisait pas trop souvent, et puis après il a réussi à avoir un peu.
C'est encore un mec à trois lettres, HBA, ASM, enfin bon bref. Bonne nouvelle pour Jonathan, mais ça fait un moment qu'il l'annonce. Benedetto arrive à Marseille quand après-demain ?
Dimanche.
Samedi
pour le match, il va être présent au stade, hein. Pour l'amical contre le Napoli.
Normalement, ça devrait être ça, puisqu'il arrive samedi. Donc, ça signifie probablement, effectivement, que l'objectif, c'est qu'il soit en tribune pour l'amical,
pour le
montrer.
Il faut que tu ailles à Marignane.
On va juste expliquer pourquoi le retard. Au début, il y avait personne qui croyait, parce qu'Angelici est habitué à raconter tout et son contraire. Le président de Boca Juniors, il avait dit, on vendra personne. Jusqu'au 1er août.
C'est ce matin qu'il a donné son accord.
Exactement. Après le 8e de finale retour contre Paranense de Copa Libertadores. La Boca s'est qualifiée et pour une fois, Angelici a tenu parole. Donc au final, oui, mea culpa, Benedetto arrive avec quelques jours de retard par rapport à ce que je l'avais annoncé, mais au final, il vient.
Et j'ai eu peur de cette histoire de blessure au dos, là, il y a une dizaine de jours. C'est bluff, ça?
C'était pas au dos, c'était au mollet, je crois. C'est un peu du bluff parce qu'il a fallu faire passer la pilule, parce que de pas le faire jouer en Copa Libertadores, parce que il est populaire auprès des Inchas de Boca, et surtout t'as un cas similaire, c'est-à-dire Nathan Nandez, qui lui a été vendu pour une vingtaine de millions d'euros à Cagliari, mais qui a quand même joué les deux matchs, le match aller-retour de huitième de finale de Copa Libertadores. Donc apparemment Benedetto,
il y a deux semaines tu nous as dit grosse info, il est pas blessé.
Mais il est pas blessé.
Ouais, mais là, c'est ce que je te dis, c'est un peu du bluff.
Non, non, mais oui, c'était du bluff, sa blessure. Ouais. Parce qu'à côté, t'as Nathan Mendes qui lui a été vendu et qui a joué ses deux matchs. Et je pense que du côté, bah, peut-être de l'Olympique de Marseille, on n'a pas voulu prendre de risque et pas le risquer qui se pète sur ces deux matchs-là. Et puis aussi, il faut dire une chose pour terminer, c'est que Benedetto, c'est un joueur qui prend des coups. Et Nathan Mendes, lui, il a plutôt tendance à les donner, les coups. Donc,
vous allez me piquer François, qui tout à l'heure disait que Neymar a une dette envers le club. Lui, il aime la franchise, etc. Le mec qui traîne les pattes pour être transféré plus rapidement. Non, c'est une blague, je plaisante, François.
Benedetto. Attends, tu peux pas dire ça parce que Benedetto a quand même payé de sa poche son transfert du Mexique vers Boca Juniors. Il manquait un million de dollars. C'est lui qui a payé lui-même pour aller jouer dans le club de ses rêves.
Le mec, s'il a joué à Marseille ou qu'il va jouer à Marseille, c'est un demi-dieu. De toute façon, aux yeux de Jonathan Macardy.
Le mercato
chaud dans Gilouata qui continue dans un instant. Tiens, on va s'apercevoir que le LOSC, c'est le nouveau AS Monaco d'il y a quelques années. C'est peut-être dû à un homme. Mercato chaud dans un instant, dans l'after, sur RMC.
RMC, l'after foot.
As he turned the corner, it hit him. A smell so sweet, orchestral masterpieces could be composed about it. But what could it be? He had to find out. So with his nose leading the way, he wandered towards the paradise. He turned a corner and stopped. What lay before him was the most beautiful sight he could ever have imagined. A new bakery. And to think, he'd never have come across it had he taken the car. Walk, cycle, discover. To the Mayor of London and TfL, every journey matters.